Trainville PM. Politique.
Moi, j'avais une candidate qui avait dit ce que Christine Saint-Pierre a dit hier. Là. Elle aurait reçu un coup de téléphone de ma part pour dire, écoutez, là, mettez-en pas plus que le client demande. Là, on ne peut pas attaquer des gens sur le sexisme basé sur des faits comme ceux-là. Là. C'est ridicule.
Je crois que moi, je vous ai déjà dit que je ne qualifierais pas mes adversaires. Je ne le ferai pas plus ce matin. Mais j'insiste encore sur le fait que dans ma formation politique, les femmes ont entière liberté de s'exprimer, incluant dans les débats.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Et Carl Bélanger, consultant en communication, ex-stratège politique. Bonjour, Carl.
Bonjour.
Alors, on va commencer d'abord, mon cher Paul, avec François, le sujet que tu as intitulé « François Legault et les femmes ».
Oui. Et j'aurais pu ajouter deux points, misère. François Legault, donc si je comprends bien, parce que là, évidemment, on parle de l'attaque que oui. François Legault aurait faite contre les femmes. En fait, c'est les libéraux qui le présentent ainsi. Ils disent que parce que François Legault a révélé un échange de textos entre lui et sa candidate pressentie, Gertrude Bourdon, qui a finalement été aux libéraux. Mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il haït les femmes.
C'est parce qu'il y a des femmes.
Oui. Donc, les Anglais pourraient dire WTF. Si vous savez pas ce que ça veut dire, je vous laisse chercher sur Google. Mais qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, en gros, ce que je comprends, c'est que François Legault, il haït tellement les femmes qu'il a essayé d'en qu'il a tout fait pour en recruter une. Puis, il haït tellement les femmes qu'une fois qu'il a perdu sa candidate féminine, il est allé chercher une autre femme.
Et il haït tellement les femmes que la majorité de ses candidates seront féminines, ce qui serait oui. apparemment une première dans l'histoire du Québec.
Mais peut-être qu'il fait ça pour pouvoir les détester encore plus. Il se dit, ben regarde, là, j'ai le droit de les détester parce que je les ai... Non, mais c'est ridicule. Là. Puis, il y a un danger, évidemment, quand tes attaques, pour les libéraux, là, quand tes attaques vont si loin qu'elles ne soient plus prises au sérieux. Ben, écoutez, je vois pas...
Et qu'elles te reviennent même en pleine figure.
Oui.
Hein?
Ben, tout à fait. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer.
Je pense aussi.
Puis, ce qui a choqué, je comprends, Mme Bourdon, puis peut-être les libéraux, c'est qu'il y a un échange de textos qui a été révélé. L'échange de textos, donc, entre Mme Bourdon puis le chef de cabinet de François Legault, Martin Koskinen. Exact. Je comprends que c'est toujours sensible. Ça appartient à la vie privée, même si on n'est pas surpris, parce que, bon, une journée, on croyait qu'il était avec la CAQ, l'autre journée avec les libéraux. C'est évidemment un gros coup dur pour la CAQ qui voulait faire campagne contre le bilan de Gaétan Barrette à la santé, ben là, ils viennent de perdre cette carte-là.
Exact.
Mais bon, les libéraux aussi ont déjà fait ça. Je ne sais pas, Bernard, si tu te rappelles du chroniqueur Bernard Drainville qui...
Je le connais.
Donc, ce qui s'était passé avec Bernard Drainville, c'est qu'il y avait un échange de textos entre lui et le cabinet du docteur Barrette, du ministre Barrette, qui avait été révélé. Donc, à ce moment-là, ça, c'est, je ne sais pas si c'est parce que les libéraux détestaient les hommes blancs chroniqueurs, mais...
Oh, c'est bon, je n'avais pas fait ce lien-là.
Non. Tu viens pas de l'affaire de l'histoire du chroniqueur de Drainville.
Ça a fait beaucoup de bruit, ça.
Oui, oui. Non, mais sérieux, moi, j'étais seul derrière parce que, effectivement, j'avais un échange off the record, comme on dit, hein, avec quelqu'un de très proche de Barrette parce que, rappelez-vous, je vous donne le contexte, c'était au moment où la FIC, Fédération des infirmières, donc voulait une rencontre avec Gaétan Barrette. Puis moi, j'avais texté avec cette personne de l'entourage de Gaétan Barrette en disant « Pourquoi vous les rencontrez pas? » Parce que là, vous avez l'air boqué, vous avez l'air fermé. Rencontrez-les, puis discutez. Puis là, vous pouvez sortir du meeting, tout sourire, bras dessous. Je veux dire, vous êtes en train de perdre la bataille de l'opinion publique par votre attitude par rapport à cette rencontre-là. Alors, il y avait un échange bien correct. Oui. C'est des échanges comme on en a tous les jours dans notre travail. Sauf que Gaétan Barrette m'a entendu dans la chronique que je fais avec Paul Arcand et il a décidé de saisir, ce que je comprends, il a pris le iPhone de la personne dans son entourage, il a fait une capture d'écran puis il a sacré ça sur Twitter.
C'est jamais élégant.
Mais c'est
pour décoder
c'est
un
est-ce que
peu,
ça t'est ouais. déjà arrivé, ça?
Mais, moi, non, pas du tout. Off the record, pour moi, c'est sacré. C'est vraiment, vraiment sacré.
Pour moi aussi.
Il y en a qui l'ont plus élastique que d'autres, là, off the record. C'est faut toujours être très, très prudent, surtout quand on fait ça par écrit.
Ouais, ouais. Mais en tout cas, moi,
mais pour décoder un peu, tu sais, oui. au-delà de l'affaire du texto, ce qu'il faut comprendre dans l'attaque des libéraux, c'est que François Legault, quand tu regardes les résultats de la coalition Avenir Québec en 2012, puis en 2014, ils ont toujours eu un peu de difficulté avec l'électorat féminin.
Exact.
Et la CAQ elle-même recrutait très peu de candidates féminines. Il était à peine en haut de 20% dans les dernières élections. Donc la CAQ, les libéraux savent que taper sur ce clou-là, ça peut être payant. Or, il faut que quand tu faut qu'il y ait quelque chose à critiquer, faut que la critique elle soit crédible. Et deux, tu peux pas oublier que la CAQ a fait tellement d'efforts dans la dernière année, autant dans le recrutement de candidates. Là, ils sont directement dans parité. Ils vont pouvoir avoir, s'ils sont élus, un conseil des ministres paritaire comme ils le promettent. Puis aussi, M. Legault lui-même, là, je pense que c'était même mon collègue Denis Lessard, dans une super bonne analyse, l'expliquait bien qu'entre autres, tous les efforts déployés par M. Legault, il s'était même rendu dans... C'est le seul chef de parti qui avait participé à un débat organisé par une association de femmes, de femmes d'affaires pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, il y a vraiment il a vraiment essayé de combler ce retard-là. Puis,
mais on d'ailleurs, voit les dans les derniers sondages, dans le dernier léger, il a pris l'avance chez les femmes, Legault. Alors que c'est dans le Ipsos, je pense, où il est derrière les libéraux par rapport à l'appui. Par rapport aux intentions
de vote. De toute façon, pour les femmes, regardons les mesures des partis, questions à dire sur toutes les causes féministes. Là, c'est là d'abord que c'est important.
En tout cas, tout ça pour dire que pendant ce temps, pendant que Gertrude, la controverse autour de Gertrude Bourdon continue, on parle pas, pendant ce temps-là, on parle pas des engagements des partis, notamment des engagements des libéraux. Ils font beaucoup de pas pire engagement, à mon sens,
oui.
À moi. Là.
Puis on va y revenir tantôt, mais il y a plein de mesures intéressantes sur le fond. Là. Je pense qu'on va avoir le temps de le couvrir, puis c'est important.
Oui, voilà. Alors, Carl, ça va?
Ça va très bien.
Écoute, là, il y a de la grosse, grosse nouvelle.
Absolument.
L'ALENA, mon ami, l'ALENA, donc les États-Unis et le Mexique, qui en seraient venus à un accord.
Ils ont signé apparemment une entente de principe. Il y a eu une conférence de presse un peu hallucinante de Donald Trump qui était dans le bureau ovale avec le président mexicain qui était là par téléphone via un interprète. Ça a donné ce que ça a donné, mais la réalité, c'est qu'il y a un accord entre le Canada et le Mexique, un accord que Trump appelle l'accord États-Unis-Mexique. Donc, on parle plus d'ALENA. Il même fait mention qu'on devrait changer ce nom-là, puis que on est dans le bilatéral, puis que le Canada peut-être va pouvoir se joindre à nous s'ils font montre de bonne volonté. On peut écouter le président américain là-dessus.
Canada will start negotiations shortly. I'll be calling the Prime Minister very soon, and we'll start negotiation. And if they'd like to negotiate fairly, we'll do that. We could have a separate deal, or we could put it into this deal. We will see whether or not we decide to put up a Canada or just do a separate deal with Canada if they want to make the deal. The simplest deal is more or less already made. It'd be very easy to do and execute.
Et boy, ça s'appelle arriver à la table des négociations avec un gun, là. Parce qu'il dit au Canada, si vous pliez. Si vous pliez sur mes demandes, on va vous intégrer dans l'accord bilatéral. Mais si ça fait pas, vous allez rester en dehors, puis on verra là, ce qu'on négocie avec vous plus tard.
Et c'est ça. Et c'était un peu l'inquiétude que plusieurs personnes avaient lorsqu'on voyait le Mexique et les États-Unis négocier au cours des dernières semaines et de manière très intense, de manière bilatérale. Et le Canada était écarté. Du côté du gouvernement canadien, on disait non, c'est parce qu'il y a des irritants particuliers entre ces deux pays-là. Faut que ça progresse avant qu'on puisse passer à l'étape finale. Chrystia Freeland, qui est la ministre des Affaires étrangères, la semaine dernière là-dessus, a réagi de cette façon.
Quand les enjeux bilatéraux entre les États-Unis et le Mexique seront résolus, après ça, le Canada joindra les discussions et nous sommes optimistes pour une conclusion vite des négociations sur l'ALENA.
Ouais, moi je vais te dire, elle a l'air de prendre pour acquis, Mme Freeland, que les Américains vont tout simplement réintégrer le Canada aux discussions, mais après ce que je viens d'entendre de la bouche de Trump, rien n'est moins sûr.
Effectivement, et le bureau de Freeland a réagi suite à la conférence de presse du président américain, en disant notamment que la signature du Canada était requise. Or, quand on écoute le président américain et quand on écoutait le président mexicain, il y a une entente bilatérale qui est en place. Le président mexicain pousse pour que le Canada soit inclus dans un accord à trois pays. Le président américain, c'est moins clair. Alors, il y a un peu de confusion, évidemment, parce que du côté du gouvernement canadien, ce qu'on nous dit, c'est que les négociateurs américains, ils disent un peu le contraire de ce que le président a dit publiquement. Ce serait pas la première fois, mais le message est très fort venant de Donald Trump, là, disant que le Canada n'a pas besoin de ça. Est-ce que c'est une tactique de négociation?
Ben, c'est clair.
Fort possible. Il serait surprenant que le Canada ne vienne pas à une entente, mais disons que Donald Trump, il va très fort et met un peu le Canada là, au pied du mur.
Oui. Là, est-ce que je dois comprendre que la question de la clause crépusculaire qui ferait en sorte que l'entente de libre-échange qui reste à négocier tomberait morte après 5 ans, à moins que les 3 parties soient d'accord pour la garder vivante. Cette proposition-là, qui vient des Américains, est toujours sur la table.
Les Américains tiennent mordicus. On dit que le Mexique aurait mis un peu d'eau dans son vin, mais le Canada, lui, ne veut absolument rien savoir de ça.
Est-ce que le Mexique aurait donné son accord à une clause crépusculaire ou l'entente avec le Mexique se concentre seulement sur l'industrie de l'auto?
L'entente sur le Mexique porte principalement sur l'industrie de l'auto. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'usines automobiles au Mexique et que les salaires des travailleurs mexicains sont beaucoup moins importants que ceux des États-Unis et du Canada. Donc, ils ont changé les règles. Le pourcentage de ces véhicules-là qui doit être produit, premièrement, au sein de l'entente, donc on monte ça à 75%, mais de ça, il faut absolument que 40% des véhicules, d'un véhicule, soit produit dans une usine où les travailleurs font en moyenne plus que 16 $ de l'heure.
Et donc, c'est une façon de rapatrier des emplois vers les États-Unis, là.
Exactement, vers les États-Unis. Et également, il y aura des tarifs qui seront imposés vers les véhicules mexicains qui ne seront pas produits sous ces règles-là. On parle de tarifs de 2,5%. Et dans son allocution, Donald Trump a visé l'industrie automobile canadienne en disant on a là une industrie qui n'agit pas de manière correcte avec nous aux États-Unis. On vise ce secteur-là, on met là-dedans la gestion de l'offre, on parle de tarifs de 300% des chiffres qui ont aucun rapport avec la réalité, mais c'est la façon de fonctionner de Donald Trump.
Alors rappelons-nous là que c'est dépendamment là comment vous le calculez là, mais c'est entre 15 et 30% de nos emplois, 15 et 30% des emplois des gens qui nous écoutent là, qui dépendent de l'accès au marché américain. Donc, l'ALENA, là, ça peut avoir l'air bien loin de nous autres, là, mais c'est très, très proche de nos jobs, puis de notre prospérité, puis de notre croissance économique, là. Alors, Carl, on va s'arrêter là-dessus. Évidemment, s'il y a du nouveau, on va en reparler soit aujourd'hui, soit demain.
Il y aura du nouveau, certainement, ça continue de suivre ce dossier-là.
Et je veux juste vous rappeler là, aux auditeurs, vous pouvez nous écrire si ça vous tente de participer à notre panel citoyen. Là. On va avoir une entrevue par parti politique, une par semaine, donc un parti une semaine, l'autre parti une autre semaine. La personne va venir là, dans le studio, ici. Là. Ça va être un candidat ou une candidate. Et on va avoir 3 citoyens autour de la table avec moi pour poser les questions, pour poser vos questions. Alors, si ça vous tente de participer, soit au panel Québec solidaire, Parti québécois, libéral, ça peut être plusieurs panels, écrivez-nous, Drainville à commercial, 985FM.ca, Drainville à commercial, 985FM.ca. Voici, Bernard, la question que j'aimerais poser à tel parti. Voici les questions que j'aimerais poser à tel parti, tel parti, tel parti. Et là, on va sélectionner les citoyens, on va vous demander de venir en studio puis de poser vous-même vos questions. Alors, il nous manque encore là, des questions. Là. On aimerait s'en avoir plus là, pour avoir un bon échantillonnage. Drainville à commercial, 985FM.ca. On s'arrête au retour, on continue. De retour avec Carl Bélanger, Paul Journet. Paul, parle-nous des annonces du jour.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas eu seulement de la boue, il y a eu de la substance. Des annonces autant des libéraux, des caquistes que des péquistes. Les libéraux, ce matin, c'est l'éducation. Ils étaient à Saint-Félicien. Ils ont annoncé leur intention d'investir 2,8 milliards de dollars de plus en 5 ans en éducation. Plein de différentes mesures.
C'est énorme, là, 2,8 oui, milliards. C'est peut-être la plus grosse de la campagne. Là. 2,8, là, c'est dur à battre, en tout cas.
Ça va être dur à battre. Évidemment, il faut regarder proportionnellement à l'importance du ministère, mais surtout qu'on dit que l'éducation, ça devrait être la priorité, autant que la santé. Parce que même si on veut parler d'économie, bien, si on veut parler d'économie, ça devrait passer par l'éducation, si on a une vision à long terme et pas juste ce qu'on peut promettre dans 6 mois. Plein de mesures là-dedans. Moi, ce que je retiens, entre autres, c'est qu'on veut ajouter un intervenant dans les classes, une deuxième personne au préscolaire et au début du primaire, que ce soit un orthopédagogue, un psychologue, etc. Donc, pour aider les enseignants, parce qu'on sait que la classe régulière n'est plus vraiment une classe régulière.
À cause de notamment parce qu'on a décidé d'intégrer les élèves qui ont des difficultés, que ce soit troubles de comportement, troubles d'adaptation. Alors, c'est de l'aide qui vient, qui dans le fond, c'est comme le soutien dont l'enseignant ou l'enseignante a souvent besoin et qu'il ou qu'elle n'a pas.
Oui, puis au risque de radoter, mais des fois c'est important de radoter, c'est de la répétition pédagogique, mais il faut intervenir tôt en éducation, très très tôt. Primaire, il est peut-être même déjà trop tard, ou à tout le moins il faut intervenir au début du primaire, puis c'est là que ça compte, mais c'est pour ça aussi qu'on parle du préscolaire. Deux autres éléments, quand on dit d'intervenir tôt, pour les enfants de 4 ans, ce serait gratuit. C'est ce que les libéraux proposent. Et on sait qu'il y a quelques jours, ils ont proposé d'ajouter 2000 places en service de garde, dont 1700 en CPE.
Attends, j'essaie de comprendre. Les enfants de 4 ans, ça devient la prime maternelle?
C'est la maternelle 4 ans.
La maternelle 4 ans serait gratuite? Mais
oui.
Elle est déjà.
On va en ajouter, mais ce qui est le problème, c'est que même si tu dis en théorie là, que tu veux que ce soit gratuit pour tout le monde, tu peux faire ton annonce politicienne, sauf que concrètement, est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu as les moyens de tes ambitions? Est-ce que tu as assez de classes?
Est-ce que tu as assez d'enseignants? On vient d'entendre la présidente de la commission scolaire.
Ça va être autant un défi pour les libéraux que pour les caquistes avec leurs engagements.
D'accord.
Puis une autre chose que les libéraux proposent, c'est que le ministère de la Famille se soit rapatrié, que ce soit intégré au ministère de l'Éducation. Puis je sais que l'Association québécoise des CPE eux-mêmes, ils disent, écoutez, il faut qu'on arrête de faire une espèce de rupture entre les services de garde et le primaire. Ça devrait être une continuité. Je vous donne un exemple. Tu vas avoir le dossier d'un enfant dans un CPE ou en prématernelle, on commence à le diagnostiquer, puis après le dossier, il change, il se perd parce qu'il y a une rupture entre les deux. Donc, intégrons tout ça ensemble. Fait que ça, c'est, en gros, c'est l'annonce libérale ce matin.
Donc, les libéraux s'engagent à ce que les services de garde migre vers le ministère de l'Éducation, que ça devienne, que ça fasse partie
de la
du
famille,
ministère
exact,
de l'Éducation.
C'est intéressant. Mais au début, Sébastien Proulx, il y avait les deux dossiers, souviens-toi, avant qu'il les délègue à Luc Fortin.
Oui.
Donc, ça va être une très, très grosse job, ministre de l'Éducation, sous un prochain gouvernement libéral, si ce sont eux qui sont élus. La CAQ, allocation famille.
Oui.
Il ne faut pas dire bébé bonus. François Legault n'aime pas ça. Et en effet, ce n'est pas vraiment un bébé bonus. Il a raison.
Sauf que, quand même.
Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y,
quand on donne de l'argent, quand on donne de l'argent directement pour encourager la natalité, mais c'est un peu ça, là.
Oui, sauf que le bébé bonus, ça réfère à une mesure sous le gouvernement Bourassa où tu étais à 8 000 $ puis là, on l'indexe même pas dans les années 80. Fait que c'est sûr que c'est quand même inférieur à ça. Puis ça existe déjà. Il y a déjà une allocation famille, un crédit d'impôt. Sauf que le problème, du point de vue de la CAQ, c'est que l'argent que tu donnes, il diminue plus tu as d'enfants. Pour ton deuxième enfant, le crédit est moins généreux et ainsi de suite pour le troisième. Eux, ils disent c'est inéquitable, ça devrait être la même affaire. Il y a deux raisons pour lesquelles tu peux vouloir faire ça. Premier, donner de l'oxygène aux familles. On sait que c'est une mesure très, très populaire. Mais bon, c'est ciblé, c'est symbolique. Tu donnes un chèque aux gens. Peut-être que ce serait plus simple d'avoir quelque chose d'harmonisé, juste une base fiscale disponible à tout le monde. La deuxième affaire, tu peux dire que ça va augmenter la natalité. La CAQ n'a pas joué beaucoup là-dessus. Ils ont raison parce que quand tu parles aux démographes, autant qu'ils disent que le problème est majeur et on le sous-estime, le problème de l'vieillissement de la population avec tout ce que ça génère comme coût additionnel en service là, puis en problème économique. Sauf que, est-ce que cette allocation-là aura un impact réel et significatif sur la natalité? Je ne sais pas. Peut-être même que c'est un impact qui serait d'à peu près, selon certains calculs, là, 10-12 000 personnes par année, ce qui équivaut à la baisse des réductions de seuil d'immigration proposées par la CAQ.
Mais là, ce que je comprends, là, c'est que l'augmentation du financement, là, ils appellent ça une nouvelle allocation famille.
Exact.
Elle serait versée à partir du deuxième enfant. Si t'as des parents ont un revenu
familial... à partir du deuxième enfant.
Ah, l'augmentation.
C'est ça, parce que ça existe déjà, sauf que là, on va augmenter pour le deuxième puis augmenter pour le troisième dans le but qu'il n'y ait pas de différence entre ton premier, ton deuxième et ton troisième enfant dans l'allocation que tu reçois.
C'est comme un bonus pour ton deuxième puis ton troisième.
OK, donc pour les parents qui ont un revenu familial de moins de 107 000, il y aurait un 1 200 $ supplémentaire par année pour le deuxième enfant.
Oui.
Puis il y aurait un autre... de 1 200 pour le troisième enfant.
Oui.
C'est ça, hein?
Oui.
OK. Fait que ça deviendrait même... Dans le fond, l'aide que tu reçois comme parent serait la même que ce soit pour le premier, le deuxième ou le troisième enfant.
Et le Parti québécois?
Oui.
On a le temps. Écoute, quand tu regardes, là, t'es en voiture puis t'es à l'heure de pointe, il y a quelque chose d'absurde. Tu regardes autour de toi puis tout ce que tu vois, c'est des véhicules qui transportent des sièges vides. C'est d'une incroyable et absurde inefficacité. Puis en disant ça, je juge pas les gens qui sont seuls dans leur voiture. Je les comprends. Moi aussi, j'aime ça être dans ma bulle. Puis si je le dis, c'est pour montrer à quel point c'est un réflexe ancré. Des fois, les gens, ils aiment ça être tout seuls. C'est leur moment à eux dans leur voiture. Sauf que ça génère des coûts immenses en termes de congestion et des coûts environnementaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu donnes un coup de pouce ou un coup de pied puis que tu forces les gens en leur donnant une application et un incitatif financier. C'est ça que le Parti québécois propose. Si une application, écoute, moi, j'ai encore des questions sur le détail, des moyens, quel genre d'application? Est-ce que c'est au gouvernement de commencer à se mêler de ça? Ça serait quoi le partenariat avec le privé?
Mais
l'incitatif, est-ce qu'on en donne beaucoup?
Pour amener les gens à partager la même voiture.
C'est des questions sur les moyens, mais en gros, l'objectif est louable, puis tant mieux s'ils en parlent.
Certains ont dit un Tinder du coup. covoiturage.
Le Parti québécois a dit ça.
Si ça pogne autant que pour le sexe, ça va marcher fort pour le covoiturage.
Oui, mais si ta dette est mauvaise, t'es quand même pogné avec elle dans ta voiture. C'est beaucoup plus facile de quitter le restaurant que de quitter une voiture en mouvement. Je vous le conseille pas, avis aux gens qui nous écoutent.
Carl, en une minute, ramasse-nous le Congrès conservateur, s'il te plaît.
Ben on a parlé de beaucoup de choses au Congrès conservateur, mais on a surtout parlé de Maxime Bernier, évidemment. Les gens n'en avaient que pour lui dans les corridors. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sondage Abacus qui vient de sortir.
Ouais.
Le parti de Maxime Bernier, le parti Maximus, appelons-le comme ça, se présenterait aux élections et obtiendrait autour de 13% des intentions de vote. Là, c'est un parti qui n'existe pas.
Oui.
Au Québec, il se classerait deuxième à 15% devant le Bloc, les conservateurs, le NPD. Donc, il y a une capacité pour Maxime Bernier de faire quelque chose, mais évidemment, là, pour l'instant, il ne fait rien, il est en vacances. En ce qui concerne les enjeux, écoutez, il y a eu beaucoup de choses lors du Congrès. On a parlé beaucoup d'avortement. Il y a eu une motion qui voulait retirer toute référence dans le programme conservateur à la réglementation. Ça a été rejeté par une très faible marge. Andrew Scheer est bien content de ça.
Oui, c'est ça, parce qu'il s'est engagé à ce que ça ne revienne pas. Il a tenu parole, mais comme tu le dis, par une faible marge. Carl Bélanger, merci. À demain, merci. Paul Journet. Merci.
Merci.
À demain. Restez à l'écoute, on vous revient tout de suite après les informations.